La parole au travail, une série documentaire de Christophe Massot.
Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ensemble sur Radio Grenouille pour une émission de La parole au travail. Il est beaucoup question, ces derniers temps, de notre démocratie, de notre organisation politique qui offre l'égale possibilité à tous de participer à la vie publique. Et disant cela, fiers de cette égale liberté, nous devrions nous ériger fermement contre tout autre monde qui voudrait la faire taire. Mais pourtant, tous les jours, au creux de nos mains, nous expérimentons autre chose. Au travail, il n'y a pas d'égale participation à ce qui est fait collectivement. Le contrat de travail est fondé sur le principe de subordination. Il permet de refermer l'égale liberté des salariés. Les exécutants de première ligne ne peuvent discuter avec l'encadrement, la direction ou le conseil d'administration de ce que devrait être le produit de leur travail, des moyens et des conditions de sa production. Citoyens à la ville, mais exécutants au travail. Nous avons donc une démocratie qui met de côté la question de la production de notre monde. Mais que vaut une liberté amputée des questions du travail et de la production de ce monde? Peut-être, comme l'écrit Bruno Trentin, ancien secrétaire de la Confédération Générale Italienne du Travail, la question de la liberté dans le travail devient la question de la liberté tout court. Le travail sera alors le nouveau front sur notre sol de notre démocratie. Aujourd'hui, nous allons sur le port de Marseille, entendre des ouvriers et des agents de maîtrise de la réparation navale. Ces salariés se sont battus, avec leur syndicat, pour conserver leur outil de travail, la forme 10, qui aurait dû devenir un hôtel de luxe accolé à une marina. Aujourd'hui, ils travaillent, souvent trop, et d'autres problèmes se présentent à eux. Entrons dans le port, entrons dans les entrailles de ces énormes bateaux que nous voyons au loin, et écoutons ceux qui les réparent. Bonne écoute sur Radio Grenouille.
Dans les différentes entreprises, on peut délocaliser. On peut transporter les machines et les envoyer dans n'importe quel pays du monde pour fabriquer. Tandis que nous, nos formes, nos bassins ne sont pas transportables. Nos infrastructures, elles sont là. Donc le travail est obligé de se faire ici. Et c'est ça notre atout. Et quand vous nous dites qu'est-ce qu'a fait la CGT sur le port, je vais vous citer un exemple. De 2006 à 2009, notre employeur, c'était Boluda. Hein, c'était un groupe espagnol qui avait différents chantiers dans le monde, et notamment à Barcelone. Et ce qui s'est passé avec nous en 2009, ben Barcelone l'a connu un peu plus tard. Et ben à Barcelone, il n'y a pas la CGT et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, il n'y a plus de réparation navale à Barcelone. Pourtant, hein, c'est des arrêts de croisière, il y a tout ce qu'il faut. Hein, ils ont des bassins comme plus petits, mais bon, ils ont des bassins. Ils peuvent répondre aussi à la réparation navale. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il y a un désert industriel. Et nous, on s'est efforcé à rester sur les lieux. Hein, on aurait pu toucher le bouquet comme ça se faisait un peu de partout, une enveloppe, et se dire « bon, ben, on passe à autre chose ». Nous, on aime notre métier, on y croyait, on savait qu'il y avait tout le temps des bateaux à réparer. On ne voulait pas d'enveloppe parce que, pour la plupart, il reste 20 à 30 ans de carrière à faire. Hein. Il faut de l'emploi. Et puis même pour les jeunes générations, notre but aussi, c'est de passer le flambeau. Hein, c'est pas juste on arrive à faire notre carrière et puis après, on verra ce qui se passe pour les prochains. Non. Les anciens étaient là, ils nous ont passé ce savoir-faire. Et nous, notre but, c'est de le passer à la jeune génération. Donc c'est pour ça qu'on s'est efforcé de garder cet outil industriel.
Pour l'instant, on reste comme ça. Comment est la retenue, là, dehors?
Elle est bonne, là.
Attends qu'il lève les 2 minutes et après, on mettra un petit coup de palan pour la mettre en tension. Mais attends un peu, hein. Mais je te dirai quand c'est.
Les 2 minutes, elles sont bloquées?
Ça y est, elles sont débloquées.
D'accord.
On a lâché la retenue, on a mis un petit virin d'eau à
pomper un peu.
Parce qu'elles étaient là-bas et elles ne me montaient pas, tu vois.
Ok, ok.
David, il m'a dit que ta retenue est trop forte, moi.
Moi, je suis responsable logistique transport. J'arrive généralement le matin entre 7h30 et 7h30, 8h moins le quart. On a la veille, on a toujours un peu le début de la journée du lendemain. Donc, il y a un chef d'équipe qui, lui, est affilié aux horaires fixes de l'entreprise et qui donne le démarrage de l'activité. Et après, nous, c'est par rapport à 9h, on a une réunion de production où on étale, on va dire, tout ce qu'il y a à faire dans la journée. Donc, moi, je réponds au transport, tout ce qui est transport, grues, tous les besoins en transport de toutes les corporations. Toute la gestion du matériel et la gestion des approvisionnements de toutes les corporations. On répond à toutes les corporations, que ce soit en transport et en grue. Alors, on est plusieurs corporations dans l'entreprise, même les sous-traitants. Hein. Donc, il y a la corporation mécanique, il y a la corporation tuyauterie, chaudronnerie, et la corporation logistique et corporation levage. C'est électricité aussi, entretien électricité.
Moi, je suis responsable mécanique. Ça englobe tous les systèmes de propulsion et les moteurs. Démonter, réparer et entretenir en fonction du besoin de l'armateur.
Allez, c'est bon, on est à la limite de la retenue. On ne touche plus l'arbre, c'est fini. C'est foutu pour l'air.
Quand un bateau rentre en arrêt technique dans les bassins, donc il est là en fait pour se faire réparer. Donc voilà, il y a cale sèche. Les premiers intervenants, ça reste la logistique pour brancher le navire en eau et en électricité, parce que justement il peut plus tourner sur ses moteurs, donc on le branche au courant de quai, on l'alimente en eau pour refroidir ses groupes électrogènes, enfin tous les besoins propres au navire. En sachant que des fois il a ses frigos, donc il faut brancher les frigos, hein, et ça continue, puisque des fois sur les croisières, quand on traite des croisières, il y a aussi l'équipage, et ça peut s'élever jusqu'à 1500 personnes à bord qui vivent jour et nuit. Ça nous est arrivé aussi de traiter des croisières en avarie. L'avarie, c'est quand il y a un problème sur le bateau, où il y avait l'équipage plus des croisiéristes. Donc on était monté à un pic de 4-5 000 personnes. Tout ça, il faut le gérer sur le site. Donc en premier lieu, la logistique intervient pour brancher les navires. Ensuite, il y a des différentes réunions pour déterminer la nature exacte des travaux. En sachant que quand un navire rentre dans nos formes, c'est surtout pour faire du bassin. Parce qu'un moteur, on peut toujours le faire à quai, mais démonter une hélice, forcément, il faut plus qu'il y ait d'eau. Donc chacun se met à son poste, et puis après, chaque corporation intervient. Et il y a des corporations qui travaillent ensemble, par exemple la mécanique et le levage. Quand on sort une hélice, donc il faut la démonter, après il faut la manipuler. On est sur des tonnages quand même assez élevés. Là, actuellement, on sort l'arbre d'hélice du Nicoli, un bateau de la SNCM, où l'arbre d'hélice plus l'hélice, il y en a pour 50 tonnes. Voilà, c'est assez spécifique.
Alors là, actuellement, il y a une avarie sur la ligne d'hélice bâbord. Donc on est en train de démonter la pale d'hélice, les pales d'hélice, et d'enlever le gouvernail pour pouvoir sortir la ligne d'arbre. 8 mètres d'envergure pour un poids total de 50 tonnes.
Une forme, c'est un bassin où le bateau rentre et on vide l'eau progressivement pour que le bateau se retrouve à sec. il repose sur des tins. Et puis là, on peut intervenir sur la carène et sur les hélices, tout ce qui est dans l'eau, quoi, immergé. La forme 10, elle fait 410 mètres de long. 465.
85 de large.
Hein, c'est un outil magnifique qu'on a sur Marseille. Dans le bassin méditerranéen, il n'y a que deux formes qui ont cette capacité-là, à savoir Palerme et nous, en sachant que nous, on a quand même des infrastructures vraiment gigantesques. La forme 10 a été fermée en 2000, fin 2000, pour des raisons économiques, parce qu'il n'y avait plus de navires qui... On n'arrivait pas à la rentabiliser. Il y avait des gros navires, il y avait le choc pétrolier, tout ça, il y avait la crise. Donc cette forme n'était plus opérationnelle, elle n'était plus rentable. Et puis surtout, nous, on avait une période creuse où justement se posait la question de la réparation navale sur Marseille et sa réelle nécessité. Nous, on était convaincus que les bateaux, on devait les réparer et continuer à les réparer. Et c'était surtout au niveau du GPMM et puis de l'État. C'est le grand port maritime de Marseille et la direction du GPMM et l'État où on voulait plus trop d'industrie sur le site. À partir de là, ils ont commencé à faire des appels d'offres pour créer une marina, construire un hôtel. Enfin, c'était vraiment axé sur le tourisme. Et puis, de par les besoins qui se sont créés, notamment avec les croisières, il a fallu quand même réparer ces navires, un endroit où on puisse intervenir à tout moment. Et c'était une demande forte des armateurs. Sauf que il fallait investir un petit peu parce que c'était un peu obsolète. Il a fallu expertiser le vieux bateau-porte. Le bateau-porte, c'est ce qui ferme la forme. Aujourd'hui, il y a eu des retards. Elle aurait dû ouvrir théoriquement en septembre 2015, mais il y a eu un retard sur la livraison du nouveau bateau-porte. Il faut réouvrir le plus rapidement possible parce que les contrats sont là. Ils ont décidé apparemment, le GPMM avec toutes les grandes instances, de réouvrir avec l'ancien bateau-porte en faisant quelques travaux dessus. Pour trouver une solution alternative pour réouvrir au plus vite. Et là, on est sur une réouverture pour septembre 2016. Et puis là, on annonce quand même pour les six mois de 2016 de septembre, enfin 6-5 mois, là, un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros pour représenter. C'est le chiffre d'affaires qu'on fait, nous, sur les deux formes, forme 8, forme 9. Donc c'est quand même colossal ce qui nous attend. Moi, je pense qu'au niveau de l'État, on n'investirait pas autant si eux n'étaient pas sûrs que derrière, il y ait un retour sur investissement. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on en est à près de 30 millions d'euros d'investissement. À moins d'être fou et de jeter l'argent public par les fenêtres, oui, ça s'est déjà vu. Hein. Mais je veux dire, nous, justement, on est vigilants à ça et on sait que ça peut engendrer pas mal d'embauches, d'emplois.
Il y a plusieurs corporations, les selfistes, qui s'occupent d'armer le bateau en manche à air comprimé, eau et tout ce qui s'ensuit, etc. Ça, les levageurs, qui s'occupent de le levage, quoi. Quand on enlève quelque chose qui est lourd, ils se servent des palans pour lever tout ce qui est lourd. Ils se servent de palans à chaîne et palans à air. Nous, les mécanos, de partout où il y a un boulon, on doit intervenir, si le travail est dessus. Quoi. Là, le moteur, on le déshabille. Ouais. On vérifie toutes les pièces et tout. Tout ce qui est usure, on prend toutes les côtes. Si tout se passe bien, tout marche bien. Quoi. Il y a tellement de pièces, mais il peut y avoir tellement de problèmes. Que les problèmes d'étanchéité, que l'huile, elle remonte, ou je sais pas. Il peut y avoir tellement de problèmes. Non, pour l'instant, tout se passe bien. Pour l'instant, il faut dire. Il ne faut pas dire tout se passe bien. Parce que dans le naval, il suffit que dans 5 minutes, on est bloqué. Et un travail qu'on a estimé une journée, on va rester 2 jours ou 3 jours dessus. On n'est jamais sûr de rien. Dans le naval, pour moi, en Marseillais, franchement, je kiffe. Je m'estime vraiment très chanceux d'être tombé ici. Et d'être si bien entouré, en fait. Parce que j'adore mon métier. Moi, franchement, j'adore là-bas. Ça, et après, c'est pas un travail comme à l'usine où on est obligé de refaire les choses, que c'est sans arrêt la même chose. Là, il y a toujours du nouveau. Tu sais jamais ce que tu vas faire. Le matin, quand je me lève, je suis presque content de me lever. Si ça continue comme ça toute ma vie, ben, je demande que ça, moi. Moi, je me suis chanceux d'avoir trouvé ça. Hein. Arrête d'être entouré. Il y a les chefs qui m'ont appris le métier. Qui m'apprennent le métier. Parce que franchement, en 3 ans, dans le naval, en tant que mécano, je connais peut-être 20%, 15% des choses, non ? On ne cesse d'apprendre, en fait. On va dire que avec l'école et tout, j'ai eu des capacités pour tout ce qui est calcul un peu et tout ça. Et une facilité de compréhension. Et après, quand je suis arrivé ici, ils m'ont appris le truc et j'apprends. C'est vraiment, vraiment physique. Il n'y a pas... C'est physique à un point. Faut aimer. Il ne faut pas avoir peur de travailler. Sinon, ça ne sert à rien de venir à la directe.
Il faut savoir que là aujourd'hui on est aux alentours de 105 personnes et qu'on a du mal à répondre aux demandes sur les deux formes actuelles, les formes 8 et les formes 9. Parce que suite à ces différentes fermetures qu'on a connues, le savoir-faire a disparu, les sous-traitants locaux ont disparu aussi et le volet industriel, on pensait le fermer, donc les formations aussi n'existent plus. On est obligé de faire appel en masse à des travailleurs détachés. Un salarié détaché, c'est des entreprises qui se situent dans les pays de l'Est et où, logiquement, on doit les utiliser sur des coups de bourre. Hein, c'est vraiment à un instant T pour répondre à une surcharge de travail. Sauf qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que ces gens-là restent à l'année. Dans des conditions de travail où on ne respecte aucun temps de repos, où ils sont logés on ne sait trop où. Donc il y a plein de problèmes liés à ça. Nous, justement, on n'est pas contre ces travailleurs détachés. On veut que ces gens-là travaillent aussi comme nous, mais avec des salaires identiques et avec les mêmes droits que nous. Théoriquement, l'Europe a tout prévu. Logiquement, quand ils viennent sur notre sol, ils doivent avoir les mêmes droits que nous. Sauf que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. C'est des travailleurs qui explosent tous les compteurs d'heures supplémentaires. Notamment,
c'est l'esclavage moderne.
C'est l'esclavage moderne.
Ils sont autant qualifiés que par rapport aux besoins qu'on a. C'est pour ça qu'on n'a rien contre eux aujourd'hui. Au contraire, ils donnent des perspectives aussi à l'entreprise dans le sens où on répond à toute l'activité réparation navale. Pour traiter les navires, sauf qu'ils ne sont pas traités dans les mêmes conditions que nous. Mais nous, on s'attache à essayer de regarder dans quelles conditions ils sont là, parce que ça reste pour nous des humains avant tout, des pères de famille. Et donc, on essaye de regarder de plus près, de savoir dans quelles conditions ils viennent travailler, de faire en sorte qu'ils aient la douche comme les gens de chez nous, la cantine, le droit à la cantine, etc. On n'a aucun problème avec eux. Non, mais on n'a aucun problème de fonctionnement avec eux. Il y a juste où, quand aujourd'hui, on a une forte représentativité dans l'entreprise, où ils le savent eux aussi. Donc ça leur permet aussi, des fois, d'acquérir des choses qu'ils n'ont pas. Et quand on les prend trop pour des cons, quand on ne leur donne pas à manger entre midi et deux... C'est arrivé où il a fallu qu'on intervienne pour que le samedi, la cantine n'étant pas ouverte, on en prenait des sandwichs froids. Alors qu'il faisait une température de 5-6 degrés. Quoi, voilà. Donc pour nous, ça, c'est pas acceptable. Ils sont comme nous. À un moment donné, le travail il est très compliqué, très dur, ce qui demande à un moment donné un repas chaud pour pouvoir repartir dans de meilleures conditions. Surtout que la plupart des temps de journée sont de minimum 10 voire 12 heures. Pour eux, c'est le plus souvent, c'est des 12 heures. Et donc ça, on s'attache à ce que, justement, il y a cette protection qui est faite. Mais après, ils ne parlent pas non plus totalement avec nous de crainte qu'on aille des fois un peu trop... fouiner et qui irait à l'encontre des uns et des autres, puisque ceux qui ont voulu la ramener et qui ont compris qu'ils pouvaient la ramener, ils sont pas restés très longtemps. Le mandat d'après, ils sont plus revenus.
De voir un bateau qui rentre en avarie dans nos forts, mais de le voir repartir pour transporter des passagers ou du fret ou peu importe, quoi. Je trouve ça beau, quoi. C'est, tout circule par la mer. Donc je pense qu'on est un maillon indispensable, quoi. Puis il y a une évolution permanente, donc on est obligé d'apprendre au quotidien, quoi. Ben, avant, il y avait des hélices, maintenant, il y a des pods. Des pods, c'est des embases qui tournent sur 360 degrés. Et tous ces systèmes-là, ben, il faut les apprendre et ça évolue, quoi. Donc on apprend toujours. Même au bout de 20-30 ans, on apprend toujours. C'est vraiment... C'est un beau métier. C'est un métier noble et on prend plaisir à faire ce qu'on fait, quoi.
Comme vous dites, le type de propulsion, vous vous rendez compte d'une hélice qui faisait qui allait que dans un sens de rotation. Aujourd'hui, on en a fait des hélices avec les pas variables, où elles s'orientent sur le moyeu. Il y a toujours à découvrir. Les navires, c'est jamais les mêmes. Les conditions ne sont jamais les mêmes. On en apprend toujours. Et c'est ce qui fait le charme de notre métier. Après, c'est clair que c'est un métier franchement assez hard, compliqué. C'est celui qui rentre chez nous, c'est où il rentre et ça lui plaît, où il s'en va. Après, ça fait pas de quartier. Les jeunes comprennent aujourd'hui qu'on les prend d'abord en intérim parce qu'on a du mal à trouver des gens expérimentés. Ils font leurs preuves sur le terrain. Et c'est où ça leur prie ? Avec toutes les conditions qu'on a dites, hein, le temps de travail. Bien évidemment, au départ, sur leur contrat de travail, il y a un horaire défini. Sauf que la réalité, c'est pas celle-ci. Et l'horaire, il est au départ celui-ci, mais ça se passe jamais comme ça. Et comme il vous a dit, à un moment donné, il y a des avaries de navire où eh ben, il y a les passagers à l'intérieur et le navire, il faut le traiter samedi, dimanche, jour férié. Et il faut qu'ils sortent le plus rapidement possible. Et donc, nous, on n'est pas regardant de ça. Nous, notre métier, c'est de réparer les navires et de les voir rentrer et sortir le plus rapidement possible et que le client, comme il vous dit, il soit content. C'est assez hard. Ne serait-ce que par le nombre d'heures qu'on effectue. Toutes les corporations qui répondent à l'activité, c'est tout du travail manuel où il est très facile de faire des accidents quand on est un peu mal intentionné. Et surtout avec le nombre d'heures qu'on effectue, la fatigue, ça va vite, ça va très vite. Et quand on fait des accidents, généralement, c'est des accidents assez graves et les gens partent pour un petit moment quand ils sont en accident. Et c'est que l'acquisition de l'expérience qui fait que ben, vous avez fait une fois cet accident-là, ben, la prochaine fois quand vous revenez, vous ferez doublement attention et vous le direz aux jeunes, que le jeune ne fera pas attention et quand il se fera mal, eh ben, il comprendra. C'est ça. Après, c'est un métier compliqué, mais il est tellement beau à la fois. Et puis, vous allez voir, hein, quand C'est ça.
Les urgentistes de la mer. Et puis, ça reste aussi un métier assez physique, quoi. C'est un métier vraiment spécifique. Il faut, moi, quand j'ai débuté, j'ai dit, je vais renflouer les caisses, je vais faire ça 2-3 ans, parce que c'est quand même une vie de fou. Quand on travaille les samedis, les dimanches, qu'on ne voit pas nos familles, qu'on est adapté, on est obligé d'adapter notre vie familiale par rapport à notre emploi, ça devient très compliqué. Quand on a un horaire d'entreprise qui prévoit qu'on doit finir à 16 heures et puis que finalement on termine à 10 heures, 11 heures du soir, ça c'est contraignant. Mais ça fait 20 ans que je suis dans le métier, j'ai jamais connu les 35 heures. Quand un bateau y rentre, il doit sortir le plus rapidement possible. On est sur des moyennes à l'année de 50 heures, voire 60 heures par semaine. Et aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. C'est plus possible. Un gars qui travaille 60 heures toutes les semaines, toute l'année, il est au bout du rouleau, quoi, à la fin de l'année. C'est dangereux. Et puis, de toute façon, des fois, on va à l'encontre de toute règle. Parce que quand un bateau arrive en avarie, quand il a 3-4 000 personnes à bord, il doit partir le plus rapidement possible. Donc on ne peut pas, nous, se permettre de dire non, on doit faire 35 heures, non, non.
Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a été comme ça depuis la reprise, parce qu'on a connu aussi la liquidation et les 503 jours d'occupation et de chômage. Et donc, quand on a repris l'activité et que l'activité elle devenait importante, les gens avaient essentiellement la tête au travail par rapport à ce qui s'était passé. Et puis, c'est pas anodin. À un moment donné, il y a l'aspect pécunier. Donc, travailler le samedi, le dimanche, nous, le samedi, le matin, c'est à 50%, l'après-midi, c'est à 100%, le dimanche, c'est à 100%. Et derrière, au bout de la 220e heure, vous cumulez pour chaque heure faite une heure de récupération.
Après, c'est aussi l'environnement qu'il y a tout autour. Les huiles, le bruit. Quand on se retrouve dans une machine où il y a 50, 100 personnes qui travaillent, que ça soude, les fumées, ça reste quand même un environnement assez hostile. On n'est pas à l'usine où on travaille notre établi bien propre. Donc il faut psychologiquement être bien préparé à ça, quoi. Pour supprimer l'emploi sur le port, il fallait bien trouver des excuses et des coupables. On était les coupables parfaits. Des feignants, des grévistes, la CGT, on nous a traités de choléra, hein, des élus, hein, de la municipalité nous ont traités de choléra. Et aujourd'hui, on leur a démontré que ça va faire 6 ans en juillet qu'on a repris, qu'il y a des perspectives énormes. Tout le monde se félicite sur la place de Marseille de la réouverture de la Forme 10, alors que ça faisait 10 ans qu'on en parlait. Et nous, on demande juste des locaux qui soient situés sur le port, justement pour qu'on puisse faire de l'alternance, hein, où il y a du scolaire et puis après sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, tous les contrats d'apprentissage qu'on a au sein d'entreprise, les gars sont obligés d'aller à Port-de-Bouc, à Istres, parce que ici sur la place marseillaise, il n'y a rien qui est prévu pour. Et puis après, nos politiciens savent faire, puisqu'ils ont créé une école des métiers de la mer en Tunisie pour former nos concurrents. Donc ça, ils savent faire avec du financement public. Et on a appris ça récemment. Ils ont ouvert une école des métiers de la mer en Tunisie. Donc ça, ils savent faire. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de souci là-dessus. Il faut juste se donner les moyens et l'envie.
La parole au travail, une série documentaire de Christophe Massot.